Cours de philosophie éthique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 7 décembre 1987.
Nous avons commencé cette seconde partie dans l'étude de la philosophie morale, de l'éthique, l'étude des vertus. Il est important de se rappeler toujours que, de fait, une éthique qui regarde avant tout le point de vue de l'exemple. L'éthique stoïcienne, c'est l'éthique de l'exemple, c'est-à-dire du primat de la causalité exemplaire. Et ça revient tout le temps, l'éthique stoïcienne, c'est quelque chose de très important en nous, ordinairement. Les hommes qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens moral, des gens de droite sont toujours un peu stoïciens. Grattez un peu, vous trouverez le stoïcien derrière. Presque toujours. Le sens du devoir. Il y a une noblesse, il faut bien le reconnaître. C'est quelque chose de grand. Alors, faudrait regarder dans l'histoire de la philosophie éthique. Je ne crois pas qu'il y ait une topic historique complète de notre philosophie occidentale du côté éthique. Ce serait à faire. Elle serait très intéressante. Et vous verriez les moments où l'aspect de la causalité exemplaire apparaît plus. Quelqu'un à Fribourg avait fait une thèse sur l'éthique stoïcienne. Et faisait cette remarque que je crois assez juste, que le stoïcisme naît dans les moments de crise. Dans les moments de crise, ordinairement, c'est intéressant pour nous parce qu'on est à un moment de crise. Les grèves en sont le signe. Puisque les grèves, c'est le signal d'alarme. De la grève peut naître des quantités de choses. Ça, c'est la philosophie politique. Il faut faire la philosophie de la grève. C'est évident, on la vit. Donc réfléchissez philosophiquement. C'est votre devoir. Je ne vous demande pas d'aller pour taux de grève, mais vous êtes obligé de réfléchir sur ce que c'est que la philosophie de la grève. Et bien, la philosophie de la grève naît toujours d'un moment de crise. Quand il n'y a pas de crise, il n'y a pas de grève. Et alors, de la grève peut naître un redémarrage dans des conciliations. De la grève peut naître une révolution. Ça, c'est sûr. C'est toujours un moment indéterminé, puisque c'est une suspension momentanée d'un état normal, d'un état légal. La grève est-elle légale? N'est-elle pas légale? Vous savez que c'est très très difficile à poser. Est-ce que la grève pour des services communs, les communications, c'est un service commun. L'électricité, c'est un service commun. Faire la grève pour des services communs. Point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est légal? Pas légal, même si la loi le dit, hein, ça c'est autre chose. Hein. Je dis légal au plan philosophique. C'est important de se poser la question. Est-ce qu'on a le droit de suspendre le bien commun pendant un certain temps? Parce que c'est toujours les pauvres types qui en grèvent. ceux qui ont des voitures. Il y a un peu plus de monde sur la route, c'est tout. Mais ceux qui n'ont pas de voiture, obligés de faire du stop. C'est l'état du mendiant, le stop. Et quand vous faites du stop, faites la philosophie du mendiant. C'est très important, parce que vous voyez les voitures qui s'arrêtent et les voitures qui ne s'arrêtent pas. Je me suis mis comme ça dans le temps. Je faisais beaucoup d'autostop, alors je me suis mis au bonnier général de l'autostop. Qui est très important, parce que quand on fait l'autostop, on évangélise le milieu dans lequel on est. Et l'immense avantage, c'est qu'on est dans un petit milieu, un petit salon, très particulier, plus ou moins bien. Plus ou moins bien rembourré. Et puis, vous êtes en dépendance de ça. Et pendant ce temps-là, vous avez les gens auxquels vous parlez. Puisque l'action catholique doit regarder le milieu dans lequel on est, c'est une chose extraordinaire. Alors, comme c'est pas très organisé, on peut se mettre tout de suite au monnier général de l'action catholique de l'autostop. C'est comme le maquis qui se mettait tout de suite général avec tous les grades possibles. C'est la même chose, voyez. C'est le maquis de l'action catholique. Alors, vous avez comme ça au moyen général de l'action catholique. N'oubliez pas ça quand vous faites du stop. Alors, il faut réfléchir sur ce que l'on fait et le rendre humain en réfléchissant, comprendre les incidences politiques et les incidences éthiques. Et la grève représente quelque chose de très important, surtout quand c'est une grève qui dure comme celle-ci, et qui donc touche à des choses qui vont très loin. Mais quand vous êtes à l'étranger et qu'on parle de la grève, en France, on voit très bien ce que ça signifie. C'est prouve qu'on est dans un état qui ne veut plus ce qui se passait. Et donc, on veut autre chose. Alors, autre chose, peut-être la révolution, autre chose, peut-être, et ainsi de suite. Hein. Dans les états de crise, la philosophie éthique devient une philosophie immédiate. Et l'immédiateté se traduit par le point de vue de la cause exemplaire, à la différence de la causalité finale. Parce que je crois que c'est ça qui est intéressant à réfléchir quand nous faisons notre éthique. C'est que de fait, il y aura toujours dans l'humanité deux grandes formes d'éthique. Je ne crois pas qu'il y en ait plus. Il y aura toujours les dégradations, vous voyez. Alors vous pourriez dire une troisième forme d'éthique. La troisième forme, c'est l'éthique du plaisir, qui est la négation de l'éthique. L'épicurisme est une contradiction interne à l'intérieur de l'éthique. C'est le plaisir, là où il y a le plus de plaisir. J'opte là où il y a le plus de plaisir. Vous comprenez que ce n'est pas, au fond, au sens rigoureux, une éthique. Parce que choisissant le plaisir, ce n'est plus la responsabilité. Ce n'est plus l'aspect moral qui commande. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'est un épanouissement momentané, le carpe diem. Le carpe diem, c'est quelque chose de très spécial. Vous voyez ce que ça veut dire, carpe diem, hein? C'est-à-dire prendre la jouissance là où elle est, et immédiatement, aujourd'hui, parce que demain peut-être que ce sera disparu. C'est la fleur qui effleure aujourd'hui et demain qui sera fanée. C'est ça le carpe diem. Alors je prends immédiatement ce qui m'est donné. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc un tien vaut mieux, on le prend immédiatement, le carpe diem. C'est l'éthique, donc, de la jouissance n'est plus une éthique pour moi. C'est comme l'amitié de la jouissance n'est plus une amitié, au sens fort. C'est ça qu'il faudrait regarder aujourd'hui. C'est que l'amitié, la pure jouissance, c'est une destruction de l'ami. Parce que c'est l'utilisation de l'ami pour ma propre jouissance. Et donc ce n'est plus le respect profond de l'ami. C'est ça, vous voyez, que nous devrions regarder avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Et puis, il y a l'éthique de la cause exemplaire, et puis l'éthique de la cause finale. Les deux grandes éthiques, c'est toujours celle de la cause exemplaire et celle de la cause finale. L'éthique de la cause finale, c'est celle que nous avons optée. Une prospective lointaine. C'est le regard du lion. Alors, c'est vrai, c'est toujours un peu le regard du lion. C'est pour ça, quand on est trop secoué, l'éthique du bonheur sombre. C'est trop loin. Vous optez pour quelque chose d'irréalisable. L'éthique du bonheur, c'est l'éthique d'Aristote, c'est l'éthique de saint Thomas. C'est l'éthique au très grand sens du mot. C'est une philosophie éthique, c'est la philosophie du bonheur, c'est-à-dire celle qui essaie d'épanouir dans l'homme ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et donc qui creuse le plus loin possible. C'est une éthique qui implique une métaphysique. C'est pour ça qu'elle a cette prospective lointaine. C'est celle que nous essayons de faire. Il ne faut pas cacher nos désirs, c'est que nous essayons d'aller le plus loin possible dans le point de vue de l'éthique. Tandis que l'éthique stoïcienne, c'est l'éthique des états de crise. Donc c'est une prospective immédiate. On veut tout de suite trouver une solution. Et trouver tout de suite une solution, c'est de regarder des modèles. C'est l'exemplarité, le modèle qui joue un rôle à leur capital. Et c'est vrai que dans les états de crise, un homme influent qui peut servir de modèle emporte tout le monde. C'est toujours un peu comme ça. L'éthique stoïcienne, c'est l'éthique du modèle et donc l'éthique de la vertu. Alors évidemment, elle s'appelle pas vertu, elle s'appellera tout simplement le modèle, le héros, peu importe, mais ce sera l'éthique de la vertu. C'est l'éthique de la causalité exemplaire. On devient cause exemplaire au point de vue moral, dans la mesure même où on vit pleinement sa vie humaine, avec une certaine facilité, une certaine élégance. C'est l'homme parfaitement vertueux qui acquiert cette élégance et cette facilité. L'homme qui n'est pas vertueux, qui n'est que novice dans l'état de vertu, c'est laborieux, c'est pénible, il n'est pas du tout causalité exemplaire. Il ne dit jamais « regardez-moi et vous verrez ce qu'il faut faire ». Non, il est dans la crevasse, il est dans le chantier, et il a beaucoup de peine. Et il sait qu'il n'est pas modèle. Un toupet énorme pour être le comme Jean-Jacques. Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que l'homme. C'est juste l'inverse du novice. Proclamez ça. Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est. Ça, c'est le stoïcien. Mais ce n'est pas le pharisien. Il ne faut pas identifier stoïcien et pharisien. Mais il y a des liens. Facilement, le stoïcien devient pharisien. Il est content de lui-même. Est-ce que la causalité exemplaire n'implique pas d'être content de soi? Pour avoir ce toupet énorme de dire « Regardez-moi, je vous montre ce qu'il faut faire. » Il faut un toupet énorme pour dire ça. Donc il faut une certaine autosatisfaction. C'est intéressant. Voir le pharisaïsme et le stoïcisme. Mais je n'identifie pas les deux. Mais je dis qu'il y a facilement le passage de l'un à l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'il y a une éthique des valeurs. Quand Maritain reprend l'éthique des valeurs dans son éthique, hein, c'est intéressant de voir Maritain, parce que Maritain, ordinairement, il a beaucoup de sensibilité moderne. Et il a une volonté d'être thomiste. Mais il a une sensibilité moderne. Ça, c'est très net. C'est l'intérêt de Maritain. Et ça, on doit le regarder sous ce point de vue-là. Il a une sensibilité moderne et il a une volonté d'être thomiste. Alors, il s'arrête à mi-chemin, ordinairement, dans son éthique, parce qu'il a essayé de faire une éthique pour le monde d'aujourd'hui. Il intègre les valeurs. Est-ce que l'intégration des valeurs n'est-ce pas le point de vue de la causalité exemplaire qui reprend une place primordiale? En éthique, la valeur, c'est la vertu. C'est notre avoir. Hein? C'est un avoir. Quand on est vertueux, on est riche. Moralement riche. La caisse est peut-être vide, mais on est moralement riche. On a une richesse. On a acquis quelque chose. Et c'est quand même grand d'acquérir des vertus. D'acquérir des vertus, c'est alors on est heureux de ses vertus. Et il y a cette autosatisfaction facilement. Donc, essayons de bien saisir ces deux aspects tout le temps. Hein. Ayez tout le temps dans votre tête, si vous voulez, ces trois types d'éthique. L'éthique du plaisir. L'éthique de la cause exemplaire. L'éthique de la finalité. Je crois que ça peut nous aider beaucoup à comprendre un peu les diverses modalités de l'éthique. Je ne dis pas que ce sont les seuls, hein. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est les dominantes. Ce sont les dominantes, hein, très nettement. Parce que, vous voyez, vous pourriez dire l'éthique de Platon, où est-ce qu'elle se situe? Et je crois que l'éthique de Platon, c'est l'éthique de la causalité exemplaire. L'éthique d'un Bergson, mais c'est l'éthique de la causalité exemplaire. Oui, je prends quelques grands. C'est toujours grand, l'éthique de la causalité exemplaire. C'est noble. Il y a de la taille, c'est pas petit. Tandis que l'éthique du plaisir, elle n'a pas du tout la même noblesse. Et le carpe diem, c'est pas du tout noble. Il y a quelque chose de trop immédiat, on se jette sur l'appât immédiat. Tandis qu'au contraire, dans l'éthique de la causalité exemplaire, il y a toujours un peu de recul. Hein. Il y a toujours un petit peu quelque chose de grand. Alors, comprenons bien que dans une éthique du bonheur, de la causalité finale, la vertu n'est pas la recherche première. L'avoir n'est jamais premier en métaphysique. Eh bien, l'analogue de l'avoir pour l'éthique, c'est la vertu. C'est notre avoir, puisque c'est quelque chose qu'on a acquis. Ce sont nos habitus, l'habitus aberré, avoir, posséder. Il y a quelque chose de plus fondamental. C'est l'activité morale. Parce que nos vertus sont une chose acquise. On ne naît pas vertueux. J'ai jamais vu quelqu'un qui était né vertueux. Et lorsque on est chrétien, on le sait doublement. Puisqu'on est avec ce terrible patrimoine d'avoir comme grand-père Adam qui a péché. Et donc on est avec cette espèce de poids terrible des conséquences du péché originel. Ça, le théologien dit tout de suite. Le vrai théologien dit tout de suite. Parce que le philosophe théologien, qui est plus philosophe que théologien, voile ce mauvais atavisme et essaie de récupérer quelque chose de différent en essayant d'oublier, non pas le vieil oncle ivrogne, mais d'oublier le grand-père qui a péché. On essaie de redécouvrir quelque chose d'autre. Dans une éthique de la finalité, la vertu apparaît toujours comme quelque chose de second, parce que c'est quelque chose d'acquis. On acquiert les vertus, donc c'est bien notre avoir. C'est bien de l'ordre de l'avoir. Qu'est-ce qui est source de la vertu? C'est l'activité morale. Une activité bonne qui est source des vertus. Puisqu'on les acquiert, il y a donc une source. Et c'est quelque chose qu'on acquiert par nous-mêmes. Avec évidemment l'aide de Dieu. Qu'on regardera dans une éthique religieuse, mais qu'on ne regarde pas immédiatement. Dieu n'apparaît pas immédiatement dans l'éthique. C'est l'homme qui apparaît en premier lieu. L'éthique est premièrement une anthropologie. C'est l'activité humaine qu'on regarde. Et donc, on acquiert les vertus dans la lutte. Et on le sait très bien. Et ce qui est source de la vertu, c'est l'activité morale. C'est pour ça que toute éthique du bonheur regarde en premier lieu l'activité morale. Et l'activité morale se fonde sur un amour spirituel. C'est pour ça que le fondement de toute éthique, c'est un amour spirituel. L'amour que j'ai à l'égard d'une personne. Pas d'éthique, pas d'activité morale, sans cet amour. Cet amour qui me relie à un bien spirituel. Or, le bien spirituel, c'est la personne humaine. C'est mon bien. Et l'éthique ne peut naître qu'à partir de là. C'est ce que nous avions essayé l'année dernière. De bien comprendre, mais il faut tout le temps le reprendre, ça. Bien situer quel est le fondement de l'éthique. Et posez-vous toujours la question, c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui, et on a raison de se la poser. Quel est le fondement de l'éthique? Est-ce que le fondement de l'éthique, c'est l'impératif catégorique de Kant? Est-ce que le fondement de l'éthique, c'est le devoir? Est-ce que le fondement de l'éthique, c'est l'amour? Est-ce que le fondement de l'éthique, c'est la liberté? Si je suis dans l'attitude de Sartre, je dirais que c'est la liberté. Et la liberté n'apparaît qu'avec l'anéantisation. Et donc, le fondement de l'éthique, c'est l'anéantisation. Est-ce que le fondement de l'éthique, c'est la nature humaine? Comme dira les traditionalistes. Les traditionnalistes diront ça. C'est toujours la nature humaine. Est-ce que vous avez une éthique de droit naturel? Vous voyez, c'est important. Et arrivez vous-même à le comprendre. Hein. Pas à le répéter, mais à le comprendre. Quel est le fondement philosophique de la vie morale? C'est-à-dire de mes responsabilités. Puisque je suis un être moral que dans la mesure où des responsabilités sont présentes. Quand je pose un acte, je sais que j'en suis responsable à ma propre conscience. Et j'essaie de comprendre d'où vient cette responsabilité. Alors, je vous mets sur la voie en disant que ces responsabilités proviennent d'un amour. Toute responsabilité. responsabilité. Sans amour. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de responsabilité. D'amour spirituel. Et donc, c'est le fondement. C'est pas ce qui structure l'éthique. Hein. Ce qui structure l'éthique, c'est l'apparition de la finalité. Donc, il reste un problème toujours fondamental, le passage du bien à la fin. Le bien attire. Et certains biens finalisent. Le bien fonde l'amour à l'égard du bien spirituel. C'est le fondement de toute philosophie morale. Mais la structure de la philosophie morale, c'est la finalité. Donc ça, on l'a dit, on l'a redit. Et je le répéterai indéfiniment. Jusqu'au moment où pour vous, ce sera une évidence que vous l'aurez découvert vous-même. C'est très important, ça. Et toujours à partir de l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié. Parce que il faut bien partir de l'expérience. Et une expérience qui me fait toucher l'autre, au plan moral, l'autre, c'est l'ami. L'homme n'est pas un ami. Je n'ai pas cette expérience. C'est pour ça que la philanthropie joue un tel rôle. Aimer l'homme comme un frère, comme un autre moi-même. Alors je découvre qu'il y a quelque chose là qui me lie. Et ça me lie aux autres. Donc, la première partie de la philosophie éthique, de l'éthique du bonheur, c'est d'étudier l'activité morale, les différents moments de l'activité morale, de comprendre que l'activité morale commence par un amour souterrain, que cet amour devient conscient dans l'intention. Que cet amour devient de plus en plus conscient dans le choix des moyens en vue d'atteindre cette fin. Mais c'est complexe, hein, l'activité morale, c'est pas simple du tout. Il y a des couches successives. La nappe profonde, c'est un amour spirituel. Et puis l'émergence de cet amour spirituel, c'est dans l'intention. Et l'émergence devient immédiate dans le choix des moyens. Si vous analysez toute décision dans votre vie, vous comprendrez ça. Toute décision dans votre vie. Vous avez choisi de faire de la philosophie. Vous l'avez choisi par vous-même. Vous l'avez choisi en tant que vous obéissez dans la vie religieuse. Et puis petit à petit, ce choix des religieuses devient un choix personnel, sans supprimer l'obéissance, mais en venant faire que l'obéissance devient plus lucide. C'est vrai, c'est comme ça. Or, si vous obéissez dans la vie religieuse, c'est à cause d'une intention de vie plus profonde. Et ainsi de suite. C'est très important, vous voyez, d'être lucide dans le choix des moyens. Très important. C'est très important de comprendre que ce choix des moyens dépend d'une intention de vie. Et c'est capital de comprendre que cette intention de vie dépend d'un amour premier. Et que cet amour premier, il est souterrain, c'est la nappe profonde. Et quand cette nappe profonde est asséchée, ça arrive, des sécheresses radicales. Votre intention de vie n'a plus élan. Et vos choix n'ont plus beaucoup de sens. Pour redonner le sens à vos choix, pour redonner l'élan à votre intention de vie, c'est de revenir à ce qui est caché, ce premier amour. Et ce premier amour est toujours fervent, comme premier amour. Il jaillit et vous entraîne. Mais là, c'est pas de la psychologie que je fais avec vous ici. Mais la psychologie sera pour détecter subitement comment se fait-il. Il n'a plus aucune espèce d'énergie. Il n'a plus aucun élan. Il recommence le semestre avec une attitude tout à fait abolique. Va comme je te pousse. Commence comme ça. Comment ça se fait? Pourquoi commence-t-il le semestre comme ça en disant « Ah oui, il y a cours de d'éthique ce matin. Je suis bien obligé d'y aller. » Eh, quel sens? Ça ne signifie rien du tout. Et ainsi de suite. On voit très bien ça. Ça peut vous prendre tout d'un coup. Il y a une mouche qui vous a piqué. C'était très très beau hier. Puis aujourd'hui, il fait gris. Il y a une grisaille. Alors psychologiquement, je m'arrête à la grisaille. Bon, très bien. Je l'étudie. J'essaie de comprendre. Parce que quand il y a la grisaille, c'est pas commode de découvrir le terrain d'atterrissage. On reste dans le brouillard. Et analyser un brouillard, c'est tout. Alors, il faut trouver le terrain d'atterrissage pour pouvoir repartir. D'où ça vient, ça? Tout choix repose sur une intention de vie. Toute intention de vie repose sur un premier amour. Et le premier amour est toujours fervent. Quand il n'est plus fervent, c'est que vous avez perdu le sens de ce premier amour. Alors, il faut redécouvrir le sens de ce premier amour. On aime une personne et on n'aime qu'une personne. Vous voyez tout de suite la différence. Ce n'est pas un idéal de vie. Ça, éthique de l'exemplarité. C'est une personne qu'on aime. Voilà le réalisme. Or, la plupart des personnes, surtout les gens très bien, la plupart des personnes, c'est un idéal de vie. Oh, tu as choisi un bel idéal. On a envie de les gifler en disant, mais le bel idéal, vous pouvez le choisir aussi. Moi, je ne vis pas d'un bel idéal. Hein. Parce qu'un bel idéal, ça crève très très vite. Dès que le ciel est gris. On ne vit pas d'un bel idéal. Ça, c'est bon quand on a 16 ans. Je sais bien qu'il y a des gens qui restent toujours à 16 ans. Ça, c'est autre chose. Alors, il reste toujours avec un bel idéal. Alors, le bel idéal, il faut le revernir tous les 15 jours. Alors, on le vernit. Il y a des boîtes à revernissage. Tandis que si vous vivez d'un amour personnel, ah, vous savez que c'est infini. L'idéal n'est pas infini. Il est intentionnel. Hein? C'est pour ça que ça crève si vite. Il est intentionnel. Tandis qu'au contraire, l'amour a quelque chose de substantiel. Je touche un bien, un ami. Et c'est lui qui est source. Pour moi, le bien, c'est ce que tous désirent. Tandis que l'idéal séduit. Vous voyez tout de suite là la différence, hein, à la source. C'est tellement important de saisir ça. Que l'amour de l'ami implique toujours un halo de causalité exemplaire. Oui, c'est sûr. C'est bien évident, c'est très rare que la lune soit d'une netteté extraordinaire. Il faut être déjà assez haut. Et quand vous êtes dans un terrain de marécage, toujours un halo. Oh, on est longtemps dans un terrain de marécage avant d'être très haut. Alors à ce moment-là, c'est net, d'une netteté extraordinaire. La finalité s'impose avec une force extraordinaire. Et c'est la finalité seule qu'on cherche. C'est l'ami. C'est l'amour. Mais il faut accepter qu'au début, soit. général se réalise dans la lutte. Et je vois quels sont les ennemis immédiats de mon activité morale. Les ennemis internes de mon activité morale. C'est l'imaginaire lié à la passion.
Le philosophe peut pas le dire. Mais le philosophe
faut voir que nous vivons dans la lutte. Vous voyez, la philosophie éthique doit immédiatement constater, après avoir saisi ce qu'est l'activité morale, que cette activité morale se réalise dans la lutte. Une double lutte. Une lutte interne et une lutte externe. Et à l'extérieur, j'ai des ennemis. J'ai des amis, mais j'ai des ennemis. J'ai des amis qui, au moment de la lutte très grande, me lâcheront. Ça arrive tout le temps comme ça. Mais il y a une lutte incessante. Alors, c'est là où va apparaître la nécessité de la vertu, de l'acquisition de la vertu. Celui qui n'a pas acquis les vertus est toujours dans une attitude de défaite. Parce que, selon le bilan, il est évident que la quantité de défaite l'emporte sur la petite victoire du matin. Je suis réveillé ce matin de très bonne humeur en me disant aujourd'hui ce sera une journée merveilleuse. Première journée des cours, c'est extraordinaire. Les intelligences sont reposées, c'est extraordinaire. On va faire quelque chose de merveilleux, on va repartir avec un... Je sais pas. Au petit déjeuner, j'étais à côté d'un frère. Il m'a regardé d'un drôle d'œil. Personne d'entre nous